Et beaucoup d'entre vous ont déjà pu regarder la semaine dernière le premier épisode des trois que compose cette série de documentaires sur France 2 intitulée « Crimes contre l'humanité ». Et c'est une série de documentaires qui revient sur trois procès emblématiques qui confrontent la France à sa responsabilité dans la Shoah. La semaine passée, vous le savez probablement, c'était sur Klaus Barbie. Dans les semaines à venir, ce sera ce soir Paul Touvier et mercredi prochain, le 16 avril, ce sera Maurice Papon. On écoute Lucille Gilson nous parler de cette série de documentaires.
Ce matin, je voudrais vous parler d'une série documentaire diffusée sur France 2, France 3 et France 5, dont le titre est assez parlant, et ça s'appelle « Crimes de guerre ». Le pitch est également assez parlant, puisqu'il s'agit d'un travail de compilation de plusieurs dizaines d'heures d'archives vidéo de trois procès emblématiques de l'après-guerre. Et cela devrait vous intéresser, car il s'agit de ceux du tristement célèbre Klaus Barbie, de Paul Touvier et de Maurice Papon. Le nazi, le milicien et le haut fonctionnaire, nous dit le sous-titre de cette série documentaire fort à propos. Ces trois noms racontent à eux seuls l'articulation criminelle qui s'est opérée entre la politique menée par l'occupant allemand et celle de la collaboration engagée par l'État français, dirigé par le maréchal Pétain, lit-on ensuite sur le site de la chaîne publique dans une note d'intention. La série a donc commencé la semaine dernière sur les chapeaux de roue, le premier volet du triptyque sur Klaus Barbie, sans doute le plus spectaculaire, et je vous avoue que déjà ça nous met dans l'ambiance. Le 11 mai 1987 à 13h, la France s'apprête à visionner quasiment en live le premier procès pour crime contre l'humanité de son histoire et se confronte pour la première fois aux horreurs de la Shoah. Dans les mots des témoignages des survivants donc de la Shoah. Alors, je ne vais pas vous raconter de nouveau une histoire qui vous est certainement déjà connue, qui a fait l'objet de bien des documentaires depuis. Je vais essayer de me concentrer sur l'œuvre en soi, et pour ça, j'emprunterai les mots mêmes du réalisateur. Notre objectif était de fabriquer des objets pour la télévision destinés au prime time, avec des enjeux d'attraction, de rythme, de narration qui allaient contre le principe de la loi préconisant la annulation de toute forme de dramaturgie dans la captation, c'est-à-dire pas de mouvement de caméra, pas de gros plan, pas de contre-champ. En s'attaquant à ce monument de l'histoire française, le réalisateur a voulu éviter l'écueil du récit zapping qui passerait d'une scène forte à l'autre, quitte à laisser de côté des passages entiers. Nous avons choisi de ne garder que les témoins qui ont directement eu affaire à Barbie, a dit le réalisateur. Et pour cause, seulement 1% des enregistrements seront utilisés. Dans le premier volet, donc, nous emmène en 1987 à Lyon. La salle des pas perdus de la cour d'assises de Lyon s'est transformée pour accueillir le premier procès pour crime contre l'humanité de l'histoire à la faveur d'une loi de 1985 voulue par Robert Badinter. Lui aussi, vous devez en avoir entendu parler. Quatre caméras capteront l'intégralité des audiences pour constituer des archives audiovisuelles. Ne pas filmer le procès Barbie aurait été une atteinte à l'histoire, réaffirme l'ancien garde des Sceaux dans le film, nous offrant ainsi son champ du cygne. À l'époque, plus de 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les méfaits nazis sont bien connus, mais la France a pour le moment préféré oublier dans une ligne très gaullienne afin de se concentrer vers l'avenir, un peu à la manière d'un patient traumatisé qui, pour continuer à vivre, cherche à enfouir ses souvenirs au plus profond de lui-même. Seulement voilà, un certain Klaus Altmann est extradé de Bolivie grâce à des accords entre gouvernements après 40 ans de cavale. Depuis la fin de la guerre, c'est un peu un secret de Polichinelle, le boucher de Lyon est vivant. Il vit quelque part en Amérique latine. Dès 1969, les services secrets européens le savent, ce Klaus Altmann, qui a obtenu la nationalité bolivienne en 1957, n'est autre que celui qui a capturé, torturé et déporté plus de 10 000 juifs et résistants pendant la guerre, ce fameux Klaus Barbie donc. Mais face aux difficultés administratives, l'affaire est sur le point d'être classée. C'est grâce à un couple emblématique de cette chasse aux nazis de l'après-guerre, Beat et Serge Klarsfeld, qui le traque sans relâche avant de le confronter directement en Bolivie, que l'affaire va prendre une toute autre tournure. L'homme comparaîtra enfin et devra répondre de ses crimes devant une cour de justice. L'accusation porte sur 3 crimes majeurs, les rafles de la rue Sainte-Catherine, la rafle des enfants d'Izieux et le dernier convoi des déportés du 11 août 1944. Alors le téléspectateur est donc replongé dans cette époque. Les témoignages des survivants sont implacables, parfois insoutenables. Le récit de Simone Lagrange, torturée et déportée à l'âge de 13 ans seulement, se déploie dans un plan séquence d'une puissance inouïe sur les 37 minutes que dure son témoignage. Nous en avons gardé 14 sans aucune coupe, a dit le réalisateur par la suite. J'avoue moi-même avoir dû décrocher à certains moments. Tous dépeignent un personnage glaçant, un tortionnaire cruel et sans pitié, méthodique dans tous ses actes et surtout qui ne montre pas le moindre remords. Et d'ailleurs, au troisième jour, l'accusé prend la parole, considérant être détenu illégalement. Il annonce qu'il n'assistera pas à son procès. On saura par la suite qu'il a pris cette décision sur les conseils de son avocat Jacques Vergès. Autre personnage d'ailleurs que l'on redécouvre durant ce documentaire, cet avocat Jacques Vergès, dont on entend la plaidoirie de fin dans son entièreté. Et d'ailleurs, c'est sur cette scène que le réalisateur a choisi de clore ce premier volet, l'image de Jacques Vergès, avocat de la défense de cet homme indéfendable, et les réactions outrées des avocats des parties civiles à sa plaidoirie. Si le procès du criminel nazi a déjà fait l'objet d'une filmographie conséquente, celle de Maurice Papon et de Paul Touvier le sont un peu moins. La deuxième partie de la série documentaire sera donc consacrée au procès Touvier qui a eu lieu quelques années après, c'est-à-dire du 17 mars au 20 avril 1994. Alors ce Paul Touvier, c'est un homme peu recommandable, hein, un antisémite convaincu. Il est d'ailleurs jugé pour l'exécution de 7 hommes juifs le 29 juin 1944 à Rieux-le-Pape. Il avait jusqu'alors échappé à la justice grâce à la protection de religieux. Il sera le premier Français reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité. Barbie, le nazi tortionnaire, Paul Touvier, le milicien antisémite qui a agi dans la débâcle alors que tout était déjà perdu, sont faciles à détester. Ils vont être exemplarisés à raison et permettront à la plupart des Français de soulager une conscience encore teintée de la culpabilité d'avoir laissé faire de telles atrocités. En ce qui concerne Maurice Papon, le haut fonctionnaire, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce que même à l'époque, le grand public est passé à côté de ce procès parce qu'il a duré 6 mois, qu'il a eu énormément d'incidents, qu'il était trop compliqué, trop long, trop technique peut-être. Ce procès est un peu passé sous les radars de l'opinion publique française. Et puis c'est aussi parce qu'en fait, Maurice Papon, il a poursuivi sa carrière de haut fonctionnaire dans la France d'après-guerre sans être inquiété. On pourrait dire qu'il est passé entre les mailles du filet comme tant d'autres, mais que nenni, Maurice Papon, haut fonctionnaire donc sous l'administration Vichy, a aussi rejoint en 1943 la résistance. Il fait donc partie de ces vichistos résistants dont parlait en 2015 l'historienne Bénédicte Vergès-Chénion, catégorie dans laquelle se classera également un homme bien connu de tous aujourd'hui, un certain François Mitterrand. Ça laisse rêveur. Bon, toujours est-il que la justice considérera tout de même Maurice Papon complice de ce crime contre l'humanité pour son rôle dans l'arrestation, la séquestration et la déportation des juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy. Avant d'être déporté vers Auschwitz, il sera condamné à 10 ans de prison. Une séquence frappante du film met d'ailleurs en lumière sa responsabilité dans la déportation de plusieurs dizaines d'enfants emportés par le convoi du 26 août 42 vers Drancy puis Auschwitz. En cela, les mots d'Esther Fogiel, vieille dame qui, d'une voix de petite fille, raconte la déportation de sa famille et le calvaire d'une vie de survivante, sont édifiants. Ce film remet ce procès au goût du jour. Il nous dit entre les lignes qu'il ne faut pas oublier. Il nous dit que l'impunité n'existe pas, que 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, appréhender cette période de l'histoire est encore infiniment compliqué, mais qu'il est toujours aujourd'hui nécessaire de s'y confronter.